Lorient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, quel est l'état de la société saoudienne? De quelle manière le roi Salman renforce-t-il son pouvoir? L'islam est-il le seul pilier de la culture du royaume? Et la rente pétrolière a-t-elle atteint ses limites? Autant de questions que pose la revue Moyen-Orient et auxquelles tentent de répondre les nombreux experts, chercheurs et analystes auxquels elle fait appel. Parmi eux, Philippe Pétria nous expliquera comment les printemps arabes ont ravivé les contestations des régions de la péninsule vis-à-vis du pouvoir central à Riyad. À suivre également la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Une chanson symbolise le désenchantement de la jeunesse saoudienne « Al-Taliya » du nom d'une grande avenue de Riyad dans le quartier des affaires. Écrite par le chanteur populaire Abou Faisal, elle est dédiée au plaisir, mais aussi aux désillusions de l'amour et prend Dieu à témoin aux grandes dames des autorités. Al-Taliya, l'un des plus populaires kasrats saoudiens. La revue trimestrielle Moyen-Orient consacre opportunément le dossier de son dernier numéro à l'Arabie Saoudite, avec ce sous-titre « Pouvoir et société au royaume Al-Saoud ». La revue explore les différentes facettes de ce pays clé dans la région Moyen-Orientale et notamment l'offensive diplomatique du roi Salman, les limites de la rente pétrolière et la place de l'islam dans cette société saoudienne. Ce numéro a été imprimé avant les événements les plus récents, notamment la décapitation d'un haut dignitaire chiite et opposant saoudien le 2 janvier et ses conséquences sur les relations diplomatiques avec l'Iran. Philippe Pétria, bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Maître de conférence à l'université parisien Panthéon-Sorbonne, spécialiste du monde arabe contemporain depuis la fin de l'époque ottomane et plus spécialement de l'histoire de la péninsule arabique. Alors dans ce numéro de la revue Moyen-Orient, vous signez un article sur les régions d'Arabie face au pouvoir central. Combien y en a-t-il et comment ont-elles été créées ces régions ?
Aujourd'hui, il y a 13 régions administratives qu'on désigne souvent aussi sous des gouvernorats, qui ont des sous-divisions évidemment. 13 régions qui en fait correspondent, si on regarde l'histoire de l'Arabie Saoudite, aux différentes régions qui ont précédé la fondation du royaume saoudien et des conquêtes du fondateur actuel, Ibn Saoud. 13 régions qui étaient donc les régions historiques en fait de la péninsule arabique, des émirats en fait en grande partie, qui ont été très longtemps les rivaux, les concurrents de l'émirat saoudien.
Et qui ont été donc fédérés par... Le premier Al-Saoud ?
Oui, enfin le premier Al-Saoud en fait, le premier de la troisième dynastie saoudienne au début du XXe siècle, qui ont été fédérés très progressivement, c'est ce que j'essaie de montrer dans l'article de la revue Moyen-Orient que vous avez cité en ouverture.
Alors, ces régions ont-elles de réels pouvoirs par rapport au pouvoir central ?
Elles ont de réels pouvoirs, pas vraiment, puisque le gouverneur est nommé directement par l'administration royale et en fait, le plus souvent par le roi lui-même. C'est en fait un jeu de négociation. On attribue souvent le gouvernorat à des proches du roi, à des gens qu'il veut promouvoir, qui sont proches de lui, ou bien en récompense lorsque un autre poste leur a été refusé. Le gouverneur, par exemple, actuel de la province de la Mecque est l'un des fils du précédent roi défunt, le roi Abdallah.
Ce qui veut dire que les anciens émirs ou les anciennes familles régnantes sur ces régions n'occupent plus de postes importants ?
Non, elles en sont même tout à fait écartées, en fait. On ne trouve plus de Al-Rachid, et au contraire, on essaie de les bannir du royaume, ou en tout cas de les maintenir dans une situation de non-politisme, en fait, dans la province de Ha'il. On ne trouve plus du tout de Hachémites, au contraire, on préfère les éviter dans la province de la Mecque ou de Médine.
Alors, est-ce que cette intégration forcée des villes et des tribus à l'émirat a créé, au fil du temps, un ressentiment qui se libère aujourd'hui ? On a vu qu'il y a eu des manifestations assez violentes ces dernières années.
Oui, il y a des ressentiments, il y a des différences très fortes culturelles, puisque, nous l'avons dit, ce sont des régions très anciennes, avec des structures, des traditions, des cultures politiques et religieuses très différentes de la province du Najd, de Riyad, où est né l'émirat saoudien. Alors, est-ce qu'elles se libèrent aujourd'hui ? Elles se relibèrent, mais elles n'ont jamais disparu. Ce sont des provinces qui ont une histoire très ancienne, notamment très très ancienne d'affrontement avec l'émirat saoudien, qui en est à sa troisième dynastie. Il a été fondé au XVIIIe siècle. Donc c'est déjà une histoire ancienne de concurrence, d'affrontement, de rivalité.
Et est-ce que ces rivalités, ces affrontements ont aussi une source religieuse ?
Elles en ont, puisque dans la tradition culturelle de ces régions, qui est évolutive évidemment, il y a de très fortes différences religieuses. La province de la Mecque aujourd'hui et de Médine était autrefois le royaume du Hedjaz, un royaume hachémite qui était encore avant une province de l'Empire ottoman, gouvernée par des shérifs, des descendants de la famille du prophète, avec une forte tradition soufie en particulier, ce contre quoi le mouvement wahhabite, la réforme de Mohammed ibn Abd al-Wahhab au XVIIIe siècle, qui a coïncidé avec l'avènement de l'émirat saoudien, a lutté. De même, dans la province orientale, il y a donc une forte population, une majorité chiite, qui est en lutte en fait contre l'émirat saoudien depuis le premier émirat, depuis le XVIIIe siècle.
Et dans la région de la Mecque, vous parliez des hachémites, en fait ce sont des sunnites, on est bien d'accord, mais qui pratiquent un islam beaucoup plus quiétiste, dirait-on.
Plus quiétiste, en tout cas aujourd'hui, parce qu'ils y sont forcés. C'était aussi un islam assez puissant politiquement. Le roi Hussein a largement utilisé de l'islam dans ses prétentions, d'abord à la royauté, et puis à partir de 1916, 1917, même au califat, en rivalité avec les Ottomans. C'est en tout cas une tradition religieuse qui permet l'existence de clans concurrents, puisque l'émirat hachémite était en fait un royaume de clans chérifiens, où la négociation du pouvoir, des ressources monétaires, tirées des douanes, etc., était en perpétuelle négociation, en fait. Donc il y a une tradition en fait de dialogue, de concurrence politique et religieuse qui permet l'existence de plusieurs tendances religieuses, notamment de tendances soufies.
Alors est-ce que cela se retrouve au sommet de l'État ? On parle de centralisation de l'État, on a l'impression que l'État saoudien est un État un peu monolithe. On évoque pourtant régulièrement des affrontements au sommet de la famille royale. Alors, qu'en est-il exactement ?
Oui, c'est la grande difficulté de l'Arabie saoudite, c'est qu'on le perçoit souvent comme un bloc formé autour du roi, de la famille royale, des Saouds, d'une histoire de l'unification qu'on présente souvent comme allant de soi, très rapide, etc. Alors qu'en réalité, le royaume est profondément divisé. On a parlé donc des régions avec leurs traditions très fortes et parfois concurrentes de l'ordre ou de la culture politique de Riyad et de l'émirat saoudien. Il y a aussi, au sein même de l'État et de la famille royale, de très fortes compétitions entre les clans royaux que l'on voit aujourd'hui s'exacerber avec la question de la succession du roi Salman, qui est âgé et qui a derrière lui à la fois un fils qui aimerait bien prendre sa succession et puis aussi un neveu, un petit-neveu, qui lui aussi est très puissant.
Mais est-ce que c'est une question simplement de pouvoir ? Est-ce que c'est une question aussi religieuse ? Est-ce une question ethnique ?
Question ethnique, je ne crois pas. J'ai toujours un peu de réserve avec ce qu'est l'ethnie, mais je crois que c'est vraiment une question de pouvoir, effectivement, avec tout ce que cela suppose, évidemment, dans un royaume où la distribution des ressources, de la manne pétrolière, mais aussi des emplois, des subventions de toutes sortes, dépend d'un lien avec un prince ou une personne hautement placée. Donc il y a une question de pouvoir, il y a aussi fortement une question économique, une question en fait proprement politique.
Mais lorsque l'on entend que certains princes proches de la royauté ou d'une précédente royauté saoudienne financent ou ont financé l'État islamique, est-ce que c'est du domaine religieux ou du domaine simplement politique ?
C'est une très bonne question, parce qu'en fait c'est les deux. Je crois qu'on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a vraiment une conviction religieuse en Arabie saoudite qui tient à la fois une proximité culturelle, religieuse avec par exemple des groupes syriens et qui a permis ou qui a favorisé le financement de certains groupes jusqu'à il y a 2 ans à peu près, puisque maintenant depuis 2 ans la monarchie saoudienne contrôle beaucoup plus fermement ses financements. Et puis il y a aussi une question aussi de politique, d'affichage, de soutien et de jeu géopolitique aussi en Syrie, notamment face à l'Iran.
Alors, Philippe Petri, il y a 2 questions sociales semblent agiter le royaume actuellement. Le problème du chômage avec, semble-t-il, une saoudisation des emplois. Le terme est impropre, mais on va l'employer. Et aussi le poids de l'immigration. Ces questions surgissent-elles parce que les rentrées financières de la rente pétrolière sont en baisse ?
Incontestablement, elles sont accélérées par la prise de conscience que les rentrées pétrolières, au moins pour un certain nombre d'années, sont en baisse et vont paralyser ou en tout cas gêner considérablement les dépenses de l'État. C'est toutefois une question assez ancienne, en fait, depuis la fin des années 90, début des années 2000. Clairement, l'État saoudien envisage une transformation de son économie et la volonté de saoudiser son économie, de créer des ressources autrement que par la seule extraction pétrolière. Les premiers gros plans de saoudisation de l'économie datent des années 2000, 2002. 2004, c'était le premier plan de changement structurel.
Donc l'État providence, c'est fini ?
L'État-providence, c'est pas tout à fait fini, mais c'est probablement voué à diminuer. Le dernier discours du roi Salman, à la fin de l'année dernière, a clairement annoncé une hausse des taxes et la mise en place probable d'une TVA, chose tout à fait inouïe dans le royaume saoudien et même dans les pays du Golfe en général. Et puis une baisse progressive, mais tout de même assez importante, des subventions pour les denrées de consommation courante, l'eau, l'électricité et même le pétrole.
Donc Philippe Petria, donc beaucoup de difficultés économiques pour ce pays d'Arabie Saoudite, mais aussi un pays qui donne l'impression de se replier sur lui-même. Par exemple, il se protège à ses frontières.
Oui, il se protège à ses frontières et on comprend pourquoi les Saoudiens et notamment la monarchie se sont un peu assiégés, en tout cas menacés de toutes parts autour d'elle. Il y a la crise au Yémen et je rappelle qu'elle est très concrète hein, puisque des missiles ou des fusées arrivent sur les villes du sud de l'Arabie Saoudite, à la province, hein, à Najran. On a vu des attentats aussi à Najran, dans une mosquée pendant l'été fréquentée par les militaires en action justement au Yémen précisément. Il y a les menaces au Bahreïn avec une révolte chiite qui est quand même latente hein, et qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Il y a la crise en Irak avec l'État islamique qui est quand même tout proche de la frontière saoudienne et un mur qui est en train d'être construit et largement construit en fait déjà.
Oui, un mur entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, mais aussi un mur entre l'Arabie Saoudite et le Yémen.
Oui, le mur avec le Yémen est déjà plus ancien. Le mur avec l'Irak, c'est depuis un an et demi en fait, qu'il est en train d'être mis en place et construit. Alors il y a de très fortes craintes, et notamment les attentats qui ont été commis, on le sait, en Arabie Saoudite, au printemps, pendant l'été, et alors en septembre, pendant l'automne, sont en particulier commis par des Saoudiens originaires d'Arabie Saoudite, des sunnites, qui parfois n'ont pas quitté le royaume, et qui se sont probablement radicalisés par l'intermédiaire d'Internet.
Ce qui expliquerait les mesures récentes, notamment les exécutions de début janvier.
Oui, probablement, même si dans la dimension des exécutions, enfin dans les exécutions qui ont lieu là récemment, il y a une dimension sécuritaire très nette. C'est des exécutions qui sont beaucoup plus anciennes, c'est des gens qui ont commis des attentats en 2003-2004, notamment des Saoudiens, sunnites là tout à fait. Et puis il y a aussi une volonté d'affichage, de montrer que la monarchie prend au sérieux les risques, prend en main la situation du pays, sa destinée et sa sécurité.
Et l'autre crainte, c'est face à l'Iran.
Et l'autre crainte, c'est évidemment face à l'Iran, qui joue un rôle géopolitique de plus en plus important dans la région, et notamment dans le Golfe, ce que l'Arabie Saoudite a un peu du mal encore à accepter. Il y a une phase d'adaptation là qui est intéressante pour des chercheurs à étudier, mais qui est productrice de tensions.
Merci Philippe Petria, maître de conférence à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. On peut lire votre ouvrage sur le négoce des lieux saints, consacré en particulier au négociant Hadrami de la ville de Jeddah entre 1850 et 1950. C'était le sujet de votre thèse. La ville de Jeddah à laquelle vous avez également consacré une recherche liée au massacre de 1858.
Merci Éric Bataillon.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors Michel, votre sujet brûlant cette semaine, c'est cette nouvelle controverse en Israël où l'on n'hésite pas à parler de guerre de culture.
Oui, c'est une véritable campagne menée par une ONG israélienne de droite qui vise les artistes identifiés, eux, avec la gauche. Ils sont comparés aux pires terroristes, une campagne qui est dénigrée par le Premier ministre Netanyahou et aussi par les dirigeants de l'ensemble de la classe politique israélienne. Alors cette affaire partage les titres à la une des quotidiens israéliens avec les initiatives des ministres de l'Éducation et de la Culture. Le premier, Naftali Bennett, tente de réécrire le manuel d'instruction civique et la seconde, Miri Regev, affirme vouloir, entre autres, couper les subventions au théâtre qui monte des pièces qui dépeignent Israël sous un jour négatif. Alors les réactions sont nombreuses. L'écrivain Sami Michel titre un article adressé aux artistes avec ces mots « N'ayez pas peur ». Un autre écrivain, Meir Shalev, estime lui que les dirigeants israéliens voudraient que les intellectuels fassent acte d'allégeance non pas à l'État d'Israël, mais directement au ministre de la Culture et de l'Éducation nationale. Un commentateur souligne pour sa part que la liberté d'expression n'est pas remise en question, mais ce qu'il est, ce sont les subventions. Et puis Eric, le quotidien libéral Haaretz révèle dans son édition de ce week-end que le financement des établissements scolaires de Jérusalem-Est pourrait être remis en question s'il refuse d'adopter le programme scolaire israélien.
Oui, affaire à suivre. Alexandre, vos journaux sont très critiques, eux, vis-à-vis de la tournée en grande pompe du président iranien en Europe.
Oui, des journaux qui voient surtout les manifestations de protestation contre la tournée du président Rouhani en Europe. Et puis, le journal Al Haya souligne pour sa part les divisions au sein du Conseil des ministres libanais quant à la position de Beyrouth à l'égard de ce qu'il appelle les agressions contre l'ambassade saoudienne à Téhéran. Le Liban, rappelons-le, s'était abstenu de soutenir une résolution du Conseil ministériel de la Ligue arabe qui condamnait l'Iran. Et puis, le journal Sharq al-Awsat accuse Beyrouth d'être devenu un centre de campagne médiatique iranienne contre le monde arabe. Le journal affirme que l'Iran a financé à coups de millions plusieurs chaînes de télévision satellitaire et terrestre, sans compter les radios, les journaux et les sites électroniques qui défendent les positions de Téhéran. Le journal indique que l'Iran profite de la crise financière des médias libanais pour acheter les services d'éditorialistes célèbres qui deviennent ses porte-parole médiatiques.
Et puis Alexandre, la presse arabe s'inquiète encore de la montée en puissance du groupe État islamique en Libye.
Oui, et la presse indique que la Maison-Blanche est préoccupée par l'extension de Daesh, l'acronyme arabe de l'État islamique, tout comme l'Italie qui est le plus proche voisin européen de la Libye. Et les journaux indiquent aussi que les pays arabes limitrophes de la Libye, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte sont inquiets et qui cherchent à se prémunir contre l'extension extrémiste. Les journaux indiquent que le général Haftar, commandant des milices anti-Daesh dans l'est de la Libye, s'est rendu en Égypte. Une Égypte qui se sent comme étant la première cible du groupe État islamique et qui a massé des troupes à la frontière. Des troupes dont la mission pour l'instant est défensive. Autant de déclarations et de manœuvres diplomatiques qui font dire à certains analystes dans la presse égyptienne que des frappes de l'OTAN seraient en préparation contre Daesh Libye.
Michel Paul, apparemment les drones israéliens n'ont plus de secret ni pour les États-Unis ni pour la Grande-Bretagne.
C'est un scoop du quotidien Yedioth Aharonot qui est qualifié de véritable tremblement de terre pour les services de renseignements israéliens. Il s'avère que les services d'écoute américains et britanniques ont réussi depuis une base secrète située à Chypre à percer le système de cryptage des drones israéliens. Le journal publie un dossier sur ce sujet qui, indique-t-il, a reçu l'aval de la censure militaire israélienne. Américains et Britanniques peuvent suivre pas à pas les opérations israéliennes à Gaza, au Liban, en Syrie et même en Iran, affirme le quotidien, qui indique également que les transmissions depuis les cockpits de F-16 israéliens sont sur écoute. C'est la pire fuite que nous n'ayons jamais connue, estime un responsable militaire sous couvert d'anonymat, cité par le quotidien Yedioth Aharonot.
Et puis Michel, coup dur pour la diplomatie israélienne.
Après l'Europe, c'est maintenant les États-Unis qui ordonnent un étiquetage spécifique pour les produits en provenance de Cisjordanie et de Gaza. Alors il s'agit d'une mesure décrétée par la douane américaine qui concerne à la fois les produits manufacturés par les Palestiniens et ceux fabriqués dans les colonies de peuplement. La presse israélienne souligne que cette directive existait en fait depuis 1995, mais n'avait jamais été appliquée jusqu'à présent. Et Eric, les commentateurs sont unanimes, c'est un revers pour la diplomatie israélienne.
Une levée de bouclier dans la presse égyptienne, Alexandre, face à la loi du mépris des religions qui menacerait de plus en plus de penseurs.
Oui, tout à fait. C'est une loi, rappellent les journaux, qui avait été théoriquement forgée pour défendre les chrétiens d'Égypte contre les attaques des extrémistes musulmans. Mais au fil du temps, cette loi est surtout utilisée contre ces mêmes chrétiens qu'elle était censée défendre, souligne les journaux. En effet, plusieurs chrétiens ont été condamnés à des peines de prison ferme pour mépris de l'islam à la suite de publications sur Internet. Mais la loi est aussi devenue une épée de Damoclès entre les mains des salafistes contre tous les penseurs qui veulent renouveler l'islam. L'islamologue Islam El-Bahedi est déjà en prison. L'intellectuel Fatma Naout pourrait bientôt l'y rejoindre après sa condamnation à 3 ans de prison en première instance. Le journal Al-Masri Youm accorde une interview à Amna Nosser, une députée voilée qui est partie en guerre contre cette loi.
Allez, pour conclure Michel, là ou plutôt les photos du jour.
Plusieurs journaux parlent avec un clin d'œil de la nouvelle arme secrète de Tsahal. Ce sont des photos de soldats israéliennes en tenue, disons, minimaliste sur Instagram. Et d'après la presse, les réactions positives pour une fois fusent du monde entier et notamment du monde arabe.
À regarder avec modération. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, Fabien Munuret. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr ou consulter notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Dans un instant, un journal d'information sur RFI.
Il disait, si votre photo n'est pas